Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques minutes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi avec notre invité que j'ai plaisir à recevoir parce qu'aujourd'hui ça va être une émission en petite foulée, ça va être une émission sportive, dynamique et souriante. Alors, c'est Dan Götzinger que j'accueille aujourd'hui devant le micro de Wagon Livre. Bonjour Dan Götzinger.
Bonjour.
Alors Dan Götzinger, c'est un pseudonyme. Oui, qui est derrière Dan?
Absolument.
On le révèle ou pas?
Alors on peut le révéler, tout à fait. Je n'ai rien à cacher. C'est simplement un pseudo qui m'était nécessaire pour rendre en quelque sorte mémoire à mon père, qui est écrivain lui-même. D'ailleurs, j'ai participé à la publication de son seul bouquin qui s'appelle Destination Pluton. Il écrivait de la science-fiction. Donc j'ai fait une belle préface pour lui et on a été publié aux éditions Rivière Blanche. Il y a une cinquantaine de nouvelles et le livre a. Mon père était assez connu dans le milieu de la science-fiction, donc le livre a eu un certain retentissement. Dont je me réjouis. Alors évidemment, c'est à titre posthume, puisque mon père était déjà parti depuis 1999, mais c'était un vieux projet que je caressais. C'était d'abord publier son livre. Alors il a fallu que je compile ces nouvelles qui étaient disséminées absolument partout, donc ça a été un vrai labyrinthe pour récupérer tout ça. Et on a finalement réussi, et je suis assez content de ce premier travail qui m'a donné goût finalement aussi à passer moi-même à l'écriture.
Alors, votre premier ouvrage a pour titre Marathon. Alors, on va dire Marathon Dan, il faut le prononcer à l'anglaise. Hein. Oui. Marathon Dan, bien sûr, clin d'œil.
Marathon Dan.
Absolument. Marathon Dan et autres nouvelles chez Dan Édition, premier ouvrage. Est-ce que je peux vous demander, alors, question toujours un peu délicate et difficile, mais est-ce que je peux vous demander de vous présenter à nos auditrices et auditeurs? Quel âge avez-vous? Où habitez-vous? Quel a été votre parcours professionnel? Et ensuite, bien sûr, nous aborderons votre ouvrage en petite foulée.
Très bien, en petite foulée, oui. Alors, je suis toulousain, donc ça doit bien s'entendre, je pense, sur les ondes radiophoniques. Je suis toulousain, j'ai quitté Toulouse à l'âge de 30 ans. Je suis parti m'installer professionnel à Paris pendant 25 ans, donc j'ai aujourd'hui 63 ans. Accidentellement, je me suis promené dans Lyon et on est tombé avec mon épouse amoureux de la région et on s'y est installé il y a presque 8 ans aujourd'hui et définitivement depuis 5 ans. Et voilà, professionnellement, dans les dernières années, j'étais directeur d'une filiale d'une compagnie d'assurance pour la région Bourgogne-Franche-Comté, 6 à Dijon.
Très bien, donc vous êtes un bourguignon d'adoption.
On va dire ça.
Et vous résidez à Avallon.
Absolument.
Bien, merci Dan Götzinger pour ces précisions. Votre livre est composé en fait de scénettes très diverses, basées sur du vécu ou bien encore tout à fait rêvées ou romancées, mais elles ont toutes en commun votre passion, ce qui vous anime depuis fort longtemps, parce que devant le micro aujourd'hui, d'une certaine manière, j'ai un grand sportif qui, de surcroît, a fait à plus de 15 reprises le marathon de Paris.
Oui, tout à fait. Oui, alors,
ne rougissez pas, Dan.
Comment ?
Ne rougissez pas.
Non. Alors, je suis, on va dire, un grand sportif, certes, mais un sportif au palmarès très modeste. Hein. Je fais partie de ces gens qui sont noyés dans les pelotons. Voilà. Je monte que tout à fait exceptionnellement sur un podium. Il faut vraiment qu'il y ait des accidents de partout pour que ça m'arrive. Donc voilà, c'est vrai que la course à pied, c'est une passion depuis plus de 20 ans maintenant. Et j'ai trouvé très judicieux de faire un fil conducteur de la course à pied sur ces scénettes, ces petites historiettes, ces petits récits. Alors, j'ai trouvé que c'était très, voilà,
tantôt
très cohérent.
Fictive, tantôt puisant dans des souvenirs, des bons, des moins bons souvenirs.
Oui, c'est exact. Oui, ça, alors c'est basé sur du vécu, sur des propos qui m'ont pu m'être rapportés, sur des choses entendues, lues, vues sur les réseaux sociaux. Parfois, je me suis amusé très souvent à parodier, avec beaucoup d'humour. Enfin, j'ai toujours évité la méchanceté ou la moquerie acerbe. Et je me suis beaucoup amusé, effectivement, à réaliser ces petites scénettes.
Il y en a un peu moins de 30.
Oui, hein. Je pense, oui, une trentaine.
26
c'est ça.
Ou 27, oui, très précisément. L'ethnologue André Leroy-Gourhan disait « L'homme commence avec les pieds ». Alors, on le sait bien, l'humanité, d'abord un peu simiesque, était loin d'être debout. Prendre conscience de son corps à travers ces deux petites plaquettes que sont les pieds qui nous permet alors de marcher quand on est modeste et puis quand on veut un petit peu, disons, faire fonctionner plus intensément son corps, c'est assez exceptionnel aussi de se rappeler cette capacité de déplacement avec aussi, Dan, une bonne capacité musculaire et respiratoire.
Oui, alors tout d'abord un petit prologue sur ce sujet, c'est que on peut tous faire ce que j'ai fait. Je suis parti, j'ai absolument commencé, j'étais incapable de... Je traversais un petit parc qui était au bas de chez moi et j'allais d'un banc à un autre, c'est-à-dire espacé d'une centaine de mètres, et j'étais épuisé à l'arrivée. Vous voyez, donc, et de là, j'ai finalement fait des 50 km, des marathons à profusion. Donc ce que je veux dire, c'est que tout le monde, si moi j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Mais effectivement, il y a ce côté simple de ce sport, contact avec la nature et effectivement qui nous renvoie sans doute à nos origines, oui, simiesques un petit peu, hein, cela va sans dire. On courait pour fuir le danger, on courait pour attaquer, on courait un peu, voilà. Et je vous renvoie aussi à la littérature, il y a beaucoup, beaucoup de livres qui parlent de ça, des gens qui courent, les Taramuras, Scott Jurek a écrit un livre sur les gens qui courent et qui font des performances magnifiques tout en étant végétalien même. Donc vraiment tout est possible et il ne faut absolument pas se brider en se disant oh, moi j'y arriverai jamais. Non, c'est impossible, tout le monde peut y arriver.
Vous écrivez dans une de vos nouvelles « Certaines idées me viennent en courant le plus souvent ». Ça m'a rappelé les rêveries du promeneur solitaire, Rousseau, hein, seconde moitié du 18e siècle.
Grand honneur que vous faites, là.
Mais néanmoins, quand vous courez, quelles sont les images qui viennent? Oui. Vous dites, je peux penser à des gens absents, des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, à des personnes décédées.
Oui, la course à pied a cette faculté de, une fois que vous êtes parti pour votre première demi-heure, vous commencez à avoir votre esprit qui se libère de tous les carcans, les obligations, les pensées, les arrière-pensées, et votre esprit devient libre, il est en contact avec la nature, il n'y a plus que la nature, il y a le bruit de votre foulée, et effectivement, cette liberté d'esprit fait surgir des images, des idées, des pensées, et alors, je n'écris pas une nouvelle en courant, mais il me vient des idées que, à l'étape, je peux noter, je récupère toutes mes idées, et ensuite je ferai un récit ou pas d'ailleurs. Et voilà, c'est un processus très simple finalement.
Dan Gunsinger, en courant, vous évacuez le malaise de la vie de l'homme moderne?
Oui, alors maintenant je suis retraité, mais quand j'étais avec des fonctions professionnelles assez prenantes, assez stressantes, je partais, alors après une journée de travail parfois très dure, très longue, mais aussi très dure, compliquée, avec des grosses négociations, etc. Je partais courir pour une heure, pour deux heures, en fin de journée, à 20h, 20h30, 21h, pour deux heures, voire, et un peu comme si le corps partait sur une nouvelle filière, et qu'on ressent plus la fatigue de sa journée, et on repart comme un homme nouveau, comme une personne nouvelle, comme un athlète nouveau. Et on peut ne plus s'arrêter, voilà. Et
d'ailleurs,
pourtant, on a eu la journée.
Vous l'écrivez ainsi dans une nouvelle intitulée « Histoire athlétique presque véridique, Toffi attaqué ». Vous écrivez « Courir après une journée de travail me donne la sensation que c'est comme si ma tuyauterie et plomberie humaine, associées à mes neurones, se remettaient à zéro. Une nouvelle filière énergétique toute fraîche, en quelque sorte, prend le relais. »
Voilà, tout à fait ça. Rien à rajouter.
Bon, en tout cas, vous avez livré un message encourageant. Moi-même, qui aime bien marcher modestement, je ne me vois pas encore aller courir. D'autant plus qu'un gravillon peut être fatal. Il y a quelques petits dangers comme
alors
ça.
Alors, on peut commencer à courir, par exemple, en marchant un peu, en courant 2 minutes, en marchant, en courant, en alternant comme ça, ce que j'ai fait, moi aussi. Et puis, un beau jour, vous dites, bah, tiens, j'ai couru 1 heure sans marcher. Voilà, ça vient comme ça.
C'est Dan Götzinger qui nous accompagne aujourd'hui pour son ouvrage intitulé « Marathon Dan et autres nouvelles ». On va marquer une première pause musicale et puis ensuite on parlera de ce marathon de Paris que vous avez pratiqué à 16 reprises, je crois précisément.
15 reprises.
15 reprises, donc c'est tout de même un marathon, c'est
42 km 195.
Voilà. On aura l'occasion de revenir sur cette belle épopée personnelle et ce goût de l'effort partagé par un très grand nombre de personnes. Il y a plus de 200 000 coureurs.
Oh oui. Oh oui.
Largement. Des quatre coins de France et d'Europe et
oui,
du monde.
Oui, je crois qu'il y a 200 000 marathoniens déjà. Il y a plus de 200 000 marathoniens. Et puis dans le monde, les chiffres sont incroyables. Ils ne cessent d'augmenter.
Une épreuve himalayenne sur laquelle nous reviendrons avec notre invité, c'est Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radio Né. J'insiste, parce que si vous entendez peut-être en arrière-fond de notre échange des chants d'oiseaux, c'est parce que l'enregistrement s'est fait durant la semaine en plein air, n'est-ce pas, Dan, dans le parc de l'hôtel Avallon-Vauban.
C'est merveilleux, on pourrait courir, on serait en trail.
Et je remercie donc les gérants, Christian et Dominique Barbe, effectivement, de nous permettre de nous installer dans leur parc. Et c'est vrai que c'est un parc d'un peu plus d'un hectare qui se trouve au cœur d'Avallon, qui dépend de cet hôtel 2 étoiles. Et c'est vrai qu'on pourrait très bien envisager de courir autour de ce parc du petit chemin qui l'enserre. Voilà. Pour l'instant, pause musicale choisie par notre invité. Et puis nous nous retrouvons juste après pour parler du Marathon de Paris.
Elle mange des trousses de bambou, où la vie parlait debout. Et dans un bungalow, sur le mur y a son vélo. Elle a pas peur des poissons, ni des requins du lagon. Elle met ses dollars américains dans son maillot de bain. Elle mange du riz, des gâteaux, fait tomber les noix de coco. Se lève à 6 heures du soir et va s'asseoir au Marine Bar. Elle ramasse des coquillages, c'est la plus belle, la plus sage. T'oublieras pas son visage, c'est la plus belle de la plage au Marine Bar. Si tu veux la voir, t'as plus qu'à t'asseoir au Marine Bar. Au Marine Bar. Tous les soirs, t'as plus qu'à t'asseoir. Quand elle est née, y'avait rien, pas de soldats américains. Maintenant, elle a des copains dans tous les hôtels du coin. Ce soir, elle rentre en voiture, elle dort dans une couverture. Entre sa sœur et sa mère, dans sa vie, y'a pas de mystère. Elle mange du riz, du poisson, elle embrasse tous les garçons. Se lève à 6 heures du soir et va s'asseoir au Marine Bar. C'est la plus belle, la plus sage, elle ramasse des coquillages. T'oublieras pas son visage, c'est la plus belle de la plage au Marine Bar. Si tu veux la voir, t'as plus qu'à t'asseoir. Marine Bar, oh Marine Bar, elle est là tous les soirs, t'as plus qu'à t'asseoir. Elle mange du riz, du poisson. façon. Elle embrasse tous les garçons. Se lève à 6h du soir et va s'asseoir au marimba. C'est la plus belle, la plus sage. Elle ramasse des coquillages. N'oubliera pas son visage. C'est la plus belle de la plage au marimba. Si tu veux la voir, plus qu'à t'asseoir. Au marimba, elle est là tous les soirs, t'as plus qu'à t'asseoir. Marimba. Au marimba, si tu veux la voir. Au marimba, elle est là tous les soirs, t'as plus qu'à t'asseoir.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Marathon d'Anne et autres nouvelles, c'est le titre de l'ouvrage de notre invité, Dan Gutzinger, qui est aujourd'hui devant notre micro. Alors Dan Gutzinger, vous l'écrivez sur la quatrième de couverture, Dan Gutzinger, pédigré obscur autant que très modeste, 16 marathons, 0 victoire, 0 nul, 1 abandon sur chute à La Rochelle, 15 défaites, 50 km éco-trail, une défaite en 7h30 de course. Néanmoins, comme le baron de Coubertin aimait à l'écrire et à le répéter, l'essentiel, l'important, c'est de participer à son niveau, c'est d'apporter son effort personnel sans le souci forcément de la gagne et de la victoire.
Et heureusement, c'est ce qui explique la popularité de ces courses hors stade, ce qu'on appelle des courses hors stade. Et c'est ce qui explique la densité des pelotons et qui fait aujourd'hui que malheureusement, on est un peu interrompu à cause des problèmes sanitaires. Mais c'est quelque chose de merveilleux. On est effectivement anonyme dans ces grands pelotons. Alors, les gagnants sont à 21 km à l'heure. Nous, les perdants, nous sommes à 9, 8, 10 à l'heure. Mais tellement fiers, heureux d'avoir accompli cette performance. Et on arrive au bout de soi, au bout de ses limites. Et je trouve que c'est merveilleux. C'est une école de l'humilité également, là, parce que ça nous apprend nos faiblesses, nos forces. Et alors bien sûr que l'abandon est toujours possible, mais bien entraîné, progressivement, sans se presser, on peut très très bien, tout le monde peut très bien réussir un marathon.
Je reviens sur ce que vous avez dit. On sait très bien qu'un grand nombre de compétitions sportives, hein, quel que soit l'univers, hein, vont être annulés ou sont reportés en raison de la crise sanitaire exceptionnelle et inédite que nous avons traversée. Néanmoins, durant le confinement, on s'est rendu compte que tout d'un coup, les Françaises et les Français se sont mis à courir sans forcément toujours bien respecter les fameuses distanciations recommandées. Mais on a noté une espèce de boom du running. Alors, j'ai horreur des mots anglais, on aura sans doute l'occasion d'en reparler à travers une de vos nouvelles qui s'intitule Anglofolie, mais la marche à pied ou la course semble avoir libéré beaucoup de gens du confinement, notamment les citadins.
Oui absolument, on s'est rendu compte, je pense, qu'on était bien encombrés dans nos corps, sur nos sofas, sur nos chaises, dans nos voitures, devant nos téléviseurs. Et c'était tellement simple de pratiquer ce sport, pas besoin de réserver, pas besoin d'avoir un partenaire, forcément. Un coût très, très, très modeste et absolument tout et chacun peut partir dans la campagne, même à moins d'un kilomètre de chez lui au moment de la crise sanitaire, et faire le tour de son pâté de maison. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris goût, effectivement. Et d'ailleurs, je vois dans les réseaux sociaux que je suis sur les sites de course à pied qu'effectivement, il y a des nouvelles personnes qui se sont inscrites et qui ont démarré pendant le confinement.
Alors, Dan Gutzinger, vous dites qu'effectivement, on peut courir sans forcément dépenser beaucoup d'argent. Mais il semblerait qu'il y a... Bon, Pour le marathon de Paris, il y a le prix du dossard. Quel est le prix d'une inscription au marathon de Paris?
Alors, c'est entre moi, quand j'ai commencé, c'était dans les 60-70 euros. Aujourd'hui, ça monte à 100-120 euros. Et puis, comme ils font des espèces de ventes aux enchères, ça peut monter à 150 euros. Enfin, les prix sont délirants aujourd'hui. C'est exact. Mais bon, le marathon de Paris, vous êtes à Paris, vous êtes en France, vous ne dépensez pas d'argent pour partir à New York faire un autre marathon qui, là, vous coûterait 50 fois plus cher. Donc, je pense que quand même, c'est à la portée de toutes les bourses. Hein, c'est un écran plasma, ça doit valoir une petite fortune. Je pense qu'avec un écran plasma, vous vous payez 10 marathons de Paris. Quoi.
Le marathon de Paris, rappelons, c'est vous qui me l'avez appris, Dan Gutzinger. Donc, marathon créé en 1976. Et il faut parcourir 42 km et 195 mètres. Alors, le record, le champion, le gagnant, alors, parcourt les 42 km en combien de temps?
Alors, on est passé très, très récemment avec un athlète qui s'appelle Kipchoge à moins de 2 heures. Alors, dans des conditions très particulières. Hein, très particulières. C'est un record qui n'est pas homologué parce qu'il était, seul, il avait des meneurs d'allure, il avait une voiture qui indiquait avec un faisceau laser là où il fallait qu'il soit. Enfin, voilà. Mais il a fait moins de 2 heures. Il a fait 1h59 et une poignée de secondes. C'est absolument incroyable, quoi.
Et Dan Gutzinger fait quoi? Plus de 4 heures?
Dan Gutzinger, il fait 4h30 au mieux de sa forme.
Ce qui est honorable déjà, ça fait quoi, du 10 km/h?
Oui, ça fait du 10 km/h et puis surtout, il y a encore 10 000 coureurs derrière moi généralement. Alors, il y en a 20 000 devant.
Alors, il faut faire attention quand on prépare un marathon, on fait attention à son alimentation, son hydratation. C'est quelque chose de constant et de quotidien qui se prépare plusieurs mois à l'avance.
Oui, il vaut mieux, disons. Alors, si vous n'avez pas un passé de coureur chevronné, oui, la première fois, il faut faire attention. Il faut se méfier, il faut bien s'entraîner, sans se surentraîner, mais il faut faire ces 3-4 sorties par semaine. On peut croiser avec un peu de vélo, un peu de musculation, ça fait jamais de mal. Et il faut faire un peu attention, au moins le dernier mois, à son poids, donc pas prendre trop de gras. Éviter bien sûr les cacahuètes salées, l'alcool par exemple, bon, c'est pas terrible. Hein.
Vous écrivez « Le marathon de Paris ressemble de plus en plus à une manifestation pour le pouvoir d'achat, plus qu'à une compétition pourvue d'un bon esprit athlétique ».
Oui, alors d'abord...
Quelques griefs à faire.
Oui, alors peut-être. Je me moque beaucoup dans cet ouvrage. C'est vrai que je suis très moqueur sur...
Grinçant et acide, parfois.
Oui, oui, beaucoup, c'est vrai. Je manie ça avec amusement pour faire passer des messages. Et c'est vrai que le marathon de Paris aujourd'hui... Alors, justement, avec cette phrase « Je me moque du prix », qui est vraiment scandaleux. Et je trouve que vraiment, les organisateurs font pas très bien les choses. Il n'y a plus beaucoup d'esprit athlétique parce qu'ils sont là pour faire de l'argent. On ne va pas les citer, mais il y a une société qui organise le marathon qui s'appelle ASO, qui est bon, qui s'en met plein les poches, je pense, et qui fait travailler les scouts, en plus bénévolement. Vous voyez le genre, quoi. Donc, alors, ça a été vendu, bon, le marathon de Paris, le panneau Marathon de Paris, il est vendu à droite à gauche. Enfin, vous savez, c'est comme les stades qui ne s'appellent plus le stade machin Coubertin, mais maintenant il s'appelle le stade AXA ou le stade. Voilà, c'est un peu la mercantilisation de l'athlétisme que je déplore.
Alors, vous parlez du sacro-saint emmerdeur de chrono. Ça, c'est
et oui,
incontournable.
Forcément, on n'y échappe pas. Voilà, on n'y échappe pas. Mais c'est vrai qu'on est quand même tous à regarder sa montre, à vérifier son temps au kilomètre, etc. Donc on est quand même tous pris dans les fourches codines de ce bon sang de chrono.
Alors, ce qu'il faut rappeler tout de même concernant le mot marathon, déjà aussi, vous soulignez la polysémie de ce terme. Bien sûr, il y a le marathon en tant qu'événement sportif, mais quand on parle de négociation marathon, et j'ai regardé dans le dictionnaire historique de la langue française, le terme marathon au sens longue discussion, parfois difficile, le terme remonte à 1943. Il est utilisé pour la première fois en 1943.
Oui, alors je n'avais pas cette précision, mais c'est vrai que donc le marathon, c'est un peu l'image de couverture de mon livre, hein, qui représente ce grec extraordinaire qui vient porter la nouvelle et qui a fait donc un marathon et qui meurt lui, au bout des 42 km, mais bien sûr, il n'avait pas de ravitaillement, il n'avait pas de chaussures à compensation qu'on a, etc. Et la distance des 4295 est bien sûr une particularité anglaise, faut-il le rappeler. La reine a souhaité, lors d'un premier marathon, que la ligne d'arrivée soit au niveau de son balcon, et donc il a fallu rajouter. Alors, un yard, je vous passe les détails, je ne sais pas, mais tout ça vient des Anglais, bien sûr.
Voilà, donc hommage aussi à Philippides, donc ce soldat qui meurt à l'arrivée, mais pour annoncer cette
nouvelle,
victoire.
Oui.
Alors qu'aujourd'hui, instantanément,
ça serait plus,
on allume notre
plus
télévision,
facile.
C'est voilà. Fini, il n'y a plus de marathonien qui
ça
apporte
plus
les dépêches.
Aujourd'hui.
Hein.
Oui. L'histoire ne dit pas combien de temps il l'avait fait.
Vous l'avez dit, Dan Gutzinger, en début d'émission, vous avez parlé d'un peuple d'athlètes nés, c'est les Tarahumara.
Oui.
Alors, eux, c'est extraordinaire. Et vous le dites, d'ailleurs, il faudrait qu'on redécouvre le sens de la marche et de la course pieds nus.
Oui,
ça paraît compliqué.
Alors, c'est un peu compliqué. Alors, j'invite les auditeurs, lorsqu'ils en ont la possibilité, à faire le test. Alors, soit sur un stade avec une pelouse bien, bien propre, ou bien un jardin avec une pelouse propre, pas trop pleine de chimie non plus, et on peut faire l'expérience, on enlève ses chaussures, on enlève ses chaussettes et on teste sur quelques centaines de mètres, également en bord de mer, alors je le fais régulièrement, sur la plage, là où le sable est un peu pas trop sec, un petit peu humide, donc un peu tassé, et c'est incroyable, alors si vous réussissez à faire quelques allers-retours et vous parcourez 3-4 km comme ça, on se rend compte qu'on a des muscles dont on ne se sert jamais. Des muscles insoupçonnés. On ressent des petites courbatures que ces chaussures aujourd'hui hyper compensées, alors elles ont des avantages, mais aussi elles ont ces inconvénients, c'est qu'on a une mauvaise position du pied et le pied ne sent plus le sol et le pied est contraint artificiellement. Voilà.
Alors il y a dans votre... C'est dans le début de l'ouvrage, vous rendez hommage, alors je suppose que ce sont des grands noms de la course à pied, je pense à Serge Cottereau. Alors vous citez un de ses propos, courir c'est 85% d'endurance, 10% de résistance douce et seulement 5% de résistance dure. Alors c'est quoi de la résistance douce et de la résistance dure, Dan ?
Alors d'abord il faut rappeler à tous les athlètes dans les clubs ou hors clubs que ces proportions-là ne sont que très rarement respectées. Les athlètes se mettent systématiquement 100% de leur rouge, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont toujours à fond. Et ce que dit Serge Cottereau, qui est effectivement un grand coureur et un grand penseur aussi de la course à pied, il dit qu'à 85%, vous devez courir avec votre copain ou votre copine en parlant, vous pouvez parler tout en courant, tout en faisant un effort. Donc, c'est un effort doux. Il faut absolument ne pas être essoufflé. Les 10% de résistance douce, là on peut procéder à quelques accélérations, c'est-à-dire que vous passez de, si vous êtes un coureur comme moi médiocre, vous passez au lieu d'être à 9 km à l'heure, vous allez passer à 12 km à l'heure, ça c'est une résistance douce. Et la résistance dure, c'est ce qu'on appelle le fractionné, c'est l'intervalle training, je suis comme vous, j'aime pas trop les termes anglais, inventé par les Scandinaves, et se fractionner, vous le pratiquez souvent sur stade, mais on peut aussi le pratiquer en nature, et vous faites des séries. Alors des séries de 200, de 400 mètres, de 600 mètres, avec des temps de récupération entre les deux. Et lors de ces distances, vous êtes à 95% de votre VMA, c'est votre vitesse maximale aérobie. Bon, ce sont des chiffres, je vous invite à regarder tout ça.
On marque une nouvelle pause musicale. Je rappelle, c'est Dan Gutzinger qui nous accompagne aujourd'hui jusqu'à midi sur Radiol et on se retrouve dans une poignée de minutes.
Thank you.
bordel. Les hommes n'ont pas été sages. Ça a été un vrai carnage. Crois-moi, une vraie boucherie. New York à Kaboul City. Et si tu descends quand même dans ton traîneau éternel, surtout n'amène pas de cadeaux à ces enfants de salauds. Pour les grands, sois sans pitié. Surtout ne fais pas de quartier. Ils ne l'ont pas mérité. Mets rien dans leurs petits souliers. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, descends avec ton flingue, en bas y'a plus que des dingues. Mais n'oublie pas les enfants, ils t'attendent impatiemment, même si souvent leurs parents sont plus bêtes que méchants. Et si tu descends quand même dans ton traîneau éternel, surtout n'amène pas de cadeaux à ces enfants de salauds. Pour les grands, sois sans pitié. Surtout ne fais pas de quartier. Ils ne l'ont pas mérité. Mets rien dans leurs petits souliers. Petit papa Noël, si tu vas à Bethléem, n'oublie pas les enfants, ils t'attendent impatiemment. Mais prends ton gilet pare-balles, là-bas c'est la guerre totale. D'ailleurs c'est la guerre partout, on vit dans un monde de fous. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas les poubelles, car en bas c'est le bordel. Les hommes n'ont pas été sages, ça a été un vrai carnage. Crois-moi, une vraie boucherie, New York à Kaboul City. Petit papa Noël, petit papa Noël, on fera mieux l'année prochaine. Petit papa
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Dan Gutzinger nous accompagne aujourd'hui. Dan, Marathon Dan et autres nouvelles. Alors, évidemment, il y a tout un ensemble de nouvelles, certaines m'ayant marqué plus que d'autres, de par les thématiques, de par parfois les clins d'œil malins, astucieux, coquins, et puis parfois aussi quelques coups grinçants où Dan s'agace contre les travers des coureurs, hein, parce qu'on peut être coureur même en pleine nature et ne pas être forcément dans une belle harmonie, une belle communion avec l'environnement. Il y a toujours l'individualisme qui peut parfois triompher. Mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre club. Kayak SA, ce club existe réellement ?
Non, absolument pas. C'est une pure invention. D'accord. Qui, en quelque sorte, résume tous les clubs que j'ai pu côtoyer, que j'ai pu rencontrer, avec leurs heures et leurs malheurs, avec leurs vicissitudes et leurs réussites, avec les choses qui m'ont agacé parfois et qui parfois ont été fabuleuses. Et je remercie d'ailleurs quelques entraîneurs dans ma préface qui m'ont beaucoup marqué et qui sont des hommes, souvent des hommes d'ailleurs. C'est dommage aussi qu'il n'y ait pas plus de femmes entraîneurs. Et ce sont des hommes remarquables qui prennent sur leur temps, qui sont des bénévoles toujours et qui sont extraordinaires, qui vous accompagnent sur le bord de la piste par tous les temps, qui souvent ne courent pas. Et en plus, chez eux, ils manipulent les tableaux Excel pour vous dire votre prochain entraînement, il sera comme ça, comme ça, comme ça. C'est fabuleux, quoi.
Alors, vous rendez hommage aux entraîneurs, certes, mais vous dites que finalement, les footballeurs, en termes d'équipement, de matériel, d'infrastructure, sont plus chouchoutés que les coureurs, oui, même en club.
Oui, j'ai remarqué ça depuis plus de 20 ans. Donc, effectivement, alors, je pense qu'il y a plus de sous côté football que côté athlétisme. Les stades sont toujours illuminés à journaux lorsqu'il y a match de foot. On éteint les lumières lorsqu'il n'y a que les athlètes qui s'entraînent à faire des tours de piste. Et c'est vrai que lorsqu'il y a des questions matérielles qu'ils se posent, les footballeurs, il faut reconnaître, sont mieux lotis. Oui.
Alors, il y a une nouvelle intitulée Extra Trail. J'aime beaucoup parce que vous imaginez un marathon intergalactique qui se passe sur notre Terre, mais une Terre très dégradée où l'ambiance est irrespirable. Et alors, j'ai adoré le début parce que moi j'y ai vu un rappel de l'incipit du Père Goriot de Balzac. Vous parlez de concurrents hétéroclites, mâles, femelles et autres. Et quand on lit les premières lignes du Père Goriot, il y a la description de la pension Vauquer et à l'entrée de la pension Vauquer, il est écrit « pension des deux sexes et autres ». C'est une allusion à l'homosexualité de Vautrin qui apparaît dans le roman. Et là, Dan, vous vous donnez à cœur joie à parler de marathoniens. Alors certains ont 3 à 5 poumons, ce sont les dopés, les riels. Là, vous vous amusez bien. Hein. Oui. Et puis alors notre terre qui est déglinguée, où l'atmosphère est irrespirable.
Oui, alors je me suis bien amusé d'une façon générale dans ce bouquin. J'ai fait passer de nombreux messages, effectivement, politiques, écologiques. Et alors là, quand je parle de masculin, féminin et autres, c'est vrai que il n'y a pas de message spécial sur l'homosexualité, mais c'était plutôt sur toutes les races terrestres, toutes les races extraterrestres qui peuvent exister dans les galaxies et qui se donneraient rendez-vous pour faire une course entre elles. J'ai trouvé l'idée très 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 farfelue, très amusante et qui m'a donné vraiment la possibilité de faire d'écrire plein de choses rigolotes et c'était très 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 sympa d'écrire cette nouvelle en effet. Oui.
Concernant l'homosexualité, il y a une nouvelle où un coureur surprend tout d'un coup deux hommes qui s'embrassent à pleine bouche et se demandant en fait pourquoi se retrouvent-ils là. Est-ce que la course est un prétexte pour fuir peut-être une vie de couple subie parce que la société ne reconnaît pas toujours tout. C'est surprenant.
Alors,
il y a une autre nouvelle plus surprenante, mais j'y viendrai. Dan.
Alors, toujours dans ces messages un peu politiques, c'est vrai que j'ai tendance à fustiger les violeurs, les méchants, les homophobes. Je défends une diversité. C'est vrai que je fais passer des petits messages, mais la scène que je décris, c'est une scène que j'ai vécue. Et j'avais trouvé ça magnifique. Et en même temps, voilà, en réfléchissant bien, on se dit, mais oui, mais ces gens-là, ces deux hommes qui se rencontrent, peut-être déguisés en coureurs, peut-être coureurs eux-mêmes, j'en sais rien. Et finalement, ils se cachent. On sent bien qu'ils sont, peut-être moqués. Et ça m'avait beaucoup touché, oui. Et je défends tout ça, enfin, parce que j'ai vécu beaucoup d'homophobie dans les clubs. Et j'ai été président de club et je me rappelle avoir assisté à des conseils d'administration interclub et il fallait que je défende l'homosexualité parce que c'était épouvantable. Alors à l'époque, on en parlait peut-être moins, mais il y avait déjà une homophobie dans les clubs, alors pas qu'un athlétisme, qui était vraiment très très désagréable, comme les antiféministes, enfin les gens qui se moquent des femmes, Il a fallu. Donc c'est pour ça que ça on retrouve ça beaucoup dans mes écrits. Oui.
Il y a 3 nouvelles intitulées « Hommes, mauvaise rencontre ». Elles sont déclinées en 3 versions différentes, donc dans lesquelles, en fait, à chaque fois, il y a le même scénario. On a un coureur qui, parfois, fait semblant de ne pas voir une scène, c'est-à-dire une sorte de non-assistance à personne en danger, hein, une femme qui est agressée, peut-être violé, martyrisé par un homme. Alors, c'est vrai que ça surprend un peu. Alors, il y a des variantes comme ça. Et le coureur revient. Alors, parfois, il y a celui qui détourne le regard, qui ne veut pas voir la réalité. Il y a celui qui interviendra, devenant ainsi un héros. Comment se fait-ce que vous ayez fait trois variantes différentes des rencontres accidentelles qu'un coureur peut faire sans bien évidemment les avoir cherchées.
Oui, alors bien sûr, c'est un retentissement avec l'actualité. Hein. Ça fait toujours mal au cœur quand on entend une femme qui court et qui se fait agresser. Quand j'ai écrit la première nouvelle, effectivement, qui se termine plutôt tragiquement, j'ai pas eu envie de ne pas laisser d'espoir tout de même. Et je me suis dit, je vais écrire une deuxième nouvelle où quand même l'homme va intervenir, parce que généralement c'est un homme qui peut intervenir, et donc il assiste à la scène et il va intervenir. Et la troisième option, c'est la femme qui a appris des techniques de défense et qui va mettre à mal son adversaire, son violeur. Et voilà, j'ai voulu faire en quelque sorte le panorama de tous les cas possibles, et je renvoie bien sûr à l'actualité, à tous ces hommes qui ne réagissent pas dans les transports quand une femme se fait agresser ou dans la rue. Ou on a vu des choses absolument épouvantables. Donc c'est ma façon de contribuer au débat et de passer d'autres messages politiques, car mon livre est très politique au fond.
Oui, parce qu'à un moment, il y a un coureur qui crie « Moi, je m'en fous ». Je ne fais pas de politique, je cours. Alors en plus, c'est amusant parce que maintenant, on a un parti politique nouveau en France qui s'appelle En Marche. Alors, ce n'est pas en courant, mais le coureur qui ne fait pas de politique. Qu'est-ce que vous avez voulu dire, Dan Götzinger, derrière cela?
Vous savez, je, comme tout le monde, je fréquente pas mal les réseaux sociaux. Alors, avec tout de même modération, mais et je lis beaucoup dans les groupes de coureurs. Alors, il y a plein de choses sur le marathon, les trailers, les triathlètes, enfin bref. Et il y a beaucoup de ces coureurs qui refusent de voir le côté politique lorsqu'ils vont faire 15 000 km pour faire un marathon. La politique environnementale, ils n'en ont rien à fiche, ils l'écrivent, hein, ils le disent. Lorsqu'ils vont courir dans des pays fascistes où on assassine des opposants politiques, ils n'ont absolument rien à faire. Que leurs chaussures, qu'ils ont payées 150 euros, aient été fabriquées par des gamins qui sont sous-payés, sous-alimentés, par des femmes dont les toits des usines s'écroulent sur leur tête. Enfin, vous voyez. Alors moi, bien sûr que moi aussi j'achète ces chaussures-là, mais je ne veux pas, je l'écris très souvent dans mon livre, je ne veux pas courir à idiot ni aveugle. Voilà, je veux garder ma parole et courir lucidement.
Avoir une conscience, oui. Finalement, mais c'est toujours très difficile parce que parfois nous n'avons pas toujours le choix de faire.
Voilà,
autrement.
C'est ça. Donc je vous dis, j'achète ces chaussures fabriquées peut-être par des enfants ou des condamnés à mort, j'en sais rien, des condamnés politiques à mort, mais je le sais, je le dis, je l'écris. Et voilà, alors j'aimerais autant qu'il y ait une marque de chaussures françaises, par exemple, qui se lance, ça serait l'idéal, mais aujourd'hui, on est contraint par cette politique économique internationale qui a fait tant de tort, qui nous fait tant de tort.
Alors, on verra si effectivement il y aura une relocalisation en Europe ou en France, mais
c'est le seul
fameux
qui se forme.
Monde d'après.
Dans le monde d'après, oui.
Mais Dan court toujours, avant ou après, Dan court toujours.
Oui.
Je rappelle le titre de votre livre, nous allons marquer une nouvelle pause musicale, Marathon Dan et autres nouvelles de Dan Götzinger qui nous accompagne aujourd'hui sur Radion, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous revenons dans quelques minutes, juste après la pause musicale que nous vous offrons.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Dan Götzinger, je rappelle, vous habitez à Vallon, vous avez un peu plus de 60 ans, vous êtes à la retraite, vous adorez courir, 16 marathons à votre actif, dont 15 fois le marathon de Paris, plus de 42 km. Chapeau bas et respect en tout cas. Alors Dan, maintenant, à travers ce recueil de nouvelles dans lesquelles vous exprimez effectivement, des histoires inventées ou des histoires en tout cas conditionnées par des souvenirs. Souvenirs notamment d'un tricheur. Alors, c'est le cas d'un coureur qui présentait un léger handicap mental. Et vous semblez un peu indigné par ce qu'il a fait, alors que finalement, en trichant, en essayant de gagner quelques minutes, cela ne changeait rien par rapport à la récompense à l'arrivée, si j'ai bien compris.
Oui, certes. C'est vrai que vouloir gagner quelques minutes sur, là je crois que c'était un semi-marathon, la course, ou 10 km, enfin, gagner quelques minutes, c'est tellement dérisoire, c'est une conquête de l'inutile, c'est vraiment quelque chose qui ne sert absolument à rien. Alors, ce n'est pas le fait que la personne était handicapée ou pas, parce qu'il y a des tricheurs de toute nature. Mais,
et des tricheuses.
Et des tricheuses, sans doute aussi, oui.
Oh, oui, n'accablons pas les hommes, hein, déjà.
Vous oui, je les accable pas mal.
Ah, hein, déjà qu'ils sont tueurs, pédophiles, assassins, violeurs, mon Dieu. Donc, beaucoup, n'oublions pas les
tricheurs,
femmes.
Tricheurs, oui, bon. disons que là, il se trouve que c'était un homme. Et c'est vrai que, comme on s'amuse, moi, quand je prends part à une compétition, c'est pour m'amuser. Et c'est vrai que, alors je suis peut-être trop puriste, ça m'avait un peu interloqué de voir cette scène-là, mais bon, après,
oui, vous voilà, écrivez,
je ne juge pas.
Simplement qu'un être humain reste un être humain, qu'on soit valide ou pas, je me suis rendu compte ce jour-là qu'il y a toujours eu des tricheurs et qu'il y aurait toujours des tricheurs. Le plus étonnant sans doute en ce jour-là résidait dans le fait que pour cette triche, aucun enjeu ni gloriole existait.
Absolument.
Mais c'est l'excitation, le plaisir d'enfreindre l'interdit.
Peut-être aussi, peut-être, allez savoir. Peut-être
vous êtes trop pur, vous n'enfreignez pas les interdits.
Ah, je ne pourrais même pas couper une ligne, enfin, ça ne me viendrait pas à l'esprit, ça serait, je ne sais pas, ça, vis-à-vis de moi-même, enfin, même si personne ne me voit, je serais incapable de faire quelque chose comme ça.
Et vous ne pourriez pas prendre de produits dopants.
Ah oui, alors...
alors, parce qu'il en est question,
oui.
Et ça ne touche pas que la course, ça touche le cyclisme. On a souvent montré du doigt les cyclistes, mais finalement...
Oui.
Les marathoniens ne sont
je pense que tous les sportifs, quelle que soit la pratique, malheureusement, la dope touche tout le monde. Et très souvent, alors il y a beaucoup de compléments alimentaires qui sont vendus dans les grandes manifestations pré-marathon, par exemple. Et je trouve que c'est mettre les coureurs ou les athlètes en général sur de mauvais rails. C'est leur faire prendre de mauvaises habitudes. On voit des choses inouïes, ces grands pots de protéines. Enfin, les gens, ils repartent avec des bidons de 5 kilos. Quoi. Enfin, c'est juste incroyable. Et puis, après, il ne faut sans doute pas s'étonner non plus que, voilà, ils se mettent à se doper réellement. Puis, alors, bien sûr, les enjeux. Nous, les amateurs, on n'a pas d'enjeux. Encore qu'il y a du dopage aussi chez les amateurs, hein, peut-être encore plus parce que ça ne se voit pas. Mais avec les enjeux financiers... Le sport, finalement, devient une discipline très triste, je trouve. Parce qu'on croit plus, on n'y croit plus. Je vous parlais de cet athlète kényan, Kipchoge, qui a fait moins de 2 heures sur marathon. Mais allez savoir la réalité, je serais incapable de vous dire si cet homme-là est à l'eau claire.
Mais il y a tout de même une autre petite recette facile, hein. c'est finalement l'ovomaltine avec de la ricorée.
Oui, alors ça fait référence à un petit clin d'œil sur je fais une interview imaginaire d'un athlète dopé qui a été attrapé, qui essaie de se réhabiliter, et effectivement qui a commencé le dopage par croiser l'ovomaltine avec son bagnagna.
Est-ce qu'il y a assez de sévérité à l'égard du dopage, parce que vous mentionnez le cas de l'escrimeuse Flessel qui a eu des responsabilités politiques. Vous trouvez que les sanctions devraient être plus fortes?
Oui, alors il y a un vrai débat.
C'est toujours délicat en fait.
Oui, il y a un vrai débat parce que certains disent il faut interdire l'athlète dopé, il faut l'interdire de compétition à vie. Je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut laisser les gens se racheter. Donc il faut les interdire de, par exemple, de compétition comme on fait de 4 ans. En revanche, je serais beaucoup plus strict sur un homme politique qui a trompé son électeur, qui a piqué des sous dans la caisse ou qui a fait des faux, etc., etc. Enfin, la liste elle est très longue. C'est une vraie litanie. Alors là, oui, je pense qu'il faut les rendre inéligibles à vie. Mais le sportif, je pense qu'il faut lui laisser tout de même la possibilité de se racheter. Souvent, ce sont des gens qui n'ont que ça pour vivre, en plus. Mais il faut quand même marquer fortement le coup, puis sanctionner les hiérarchies qui couvrent, les médecins véreux, enfin, etc. Il y a toute une chaîne de responsabilité. Et l'athlète, souvent, est un peu la victime.
Faut-il interdire le tatouage? Parce qu'une nouvelle s'intitule Tatouage. C'est une nouvelle dans laquelle donc le narrateur retrouve un ami qui est devenu médecin légiste, qui s'appelle Milano et qui... alors je ne sais pas si ça existe, hein, d'ailleurs. C'est marrant parce que vous soulevez des réflexions, disant tiens, ça existe peut-être. Il prélèverait des tatouages sur des cadavres et les conserverait dans du formol bien tendu, comme ça, rappelant des choses un peu... des mauvais souvenirs, puisqu'on sait que les nazis ont fait de telles choses. Hein. Il y avait des livres reliés en peau de fesses de femmes, etc., etc. Je passe ces détails scabreux. Dan, le tatouage, alors le tatouage, c'est très tendance, puisque vous dites que 20% des personnes majeures en France sont tatouées, ce qui représente 10 millions de personnes.
C'est incroyable.
Qu'est-ce que vous avez à l'égard? Vous n'avez pas de tatouage, vous?
Non. Non, bien sûr. Alors, ça m'offusque un peu la dégradation du corps. Ça me fait penser rapidement, même si c'est beaucoup plus grave, à l'infibulation, aux scarifications, à tous ces processus qui sont la dégradation du corps et le tatouage qui est définitif, hein, qui est éternel, même au-delà de la mort. Je trouve ça vraiment très, très, à la fois très moche, esthétiquement très, très contestable, très inutile, et je ne le comprends pas. Alors en plus,
Alors c'est l'individualisme triomphant, Dan.
Certes.
Parce que autrefois, le tatouage était un signe d'appartenance des tribus, ce qui d'ailleurs fut longtemps interdit en France par la royauté et par la chrétienté. Hein. L'Église voyait d'un très mauvais œil le tatouage. Mais en plus, vous mettez en avant le côté dangereux. À quand le tatouage bio? Parce que vous dites que finalement, une femme doit être extrêmement prudente si elle a un tatouage un peu trop placé en bas du dos, parce qu'en cas de péridurale, si je vous ai bien lu, Dan, hein, l'encre pourrait pénétrer éventuellement au moment de l'opération et avoir des conséquences dramatiques.
Tout à fait. En cas de péridurale, oui, c'est quelque chose qui a été énoncé, effectivement. Et il y a une vraie... Il y a un vrai panurgisme, je dirais, dans le tatouage aujourd'hui. Et chacun y va de son petit dessin. Enfin, je sais pas. J'ai du mal à comprendre. Voilà, j'ai du mal à comprendre. Et dans les pelotons, alors, il n'échappe pas à la règle. Hein, on retrouve les 20 ou 30% de tatoués. Et voilà. Alors, il y a une épigraphe d'une de mes nouvelles qui décrit la formule chimique, une partie de la formule chimique de l'encre de Chine qui est dans vos corps. Vous qui nous écoutez, qui êtes tatoué, et qui est, vérifier ce que vous avez dans le corps, parce que ce n'est souvent pas des encres de très bonne qualité non plus.
Et dans ce texte intitulé « Le tatouage », vous rappelez, alors je le mentionne pour nos auditrices et auditeurs, j'adore ce genre de petits rappels culturels et historiques, c'est qu'au Siam ou au Cambodge, jusqu'en 1920, toute femme refusait un homme dont le sexe n'était pas tatoué. Diantre ! Alors, Dan Goetzinger, parlons, j'ai beaucoup aimé, page 73, 73, comme disent nos voisins et amis helvètes, une nouvelle intitulée « Anglofolie ». Alors là, en plus, vous avez pris un risque, parce que ça a dû être fastidieux d'écrire cette nouvelle, recenser tous les mots anglais. qu'on utilise dans différents domaines tous les jours et qui sont assez détestables parce que ça devient un peu systématique. Là, Dan, coup de gueule, vous citez d'ailleurs le linguiste Claude Agege. Défendre nos langues et leur diversité, notamment contre la domination d'une seule, c'est plus que défendre nos cultures, c'est défendre nos vies.
Absolument. Effectivement, il y a une mode qui consiste à utiliser ces termes anglais en permanence, dans tous les milieux, je remarque, dans le journalisme, dans l'économie, dans les entreprises, dans les groupes de sportifs, dans les réseaux sociaux. On n'intitule plus un film en français maintenant que lorsqu'il nous vient d'un pays étranger. On conserve son titre anglais, on ne traduit plus. Même chose pour les bouquins, vous trouverez maintenant les bouquins dont le titre n'est plus traduit. Et je trouve que en tant que défenseur de la langue française, j'ai d'ailleurs animé un cours de littérature au lycée des Chaumes qui s'intitulait « Cours de littérature et de francophonie ». Et j'apprenais à ces jeunes à défendre leur langue et utiliser le mot français, parce que le mot français existe, il est bien plus beau souvent. Et alors, un exemple parmi un million, c'est le mot « dispatcher ». Il faut arrêter avec ce terme-là. Il est absolument épouvantable. On peut répartir, on peut ventiler. Enfin, on a 10 000 synonymes. Et pourquoi tout ramener à cette langue? Je ne comprends pas bien.
L'impérialisme de la langue anglo-saxonne. Dan Götzinger, je rappelle le titre de votre ouvrage, Marathon Dan et autres nouvelles, c'est chez Dan Éditions. Donc si vous souhaitez vous le procurer, alors vous pouvez passer par le site yannickpetit.fr et on vous mettra en relation avec Dan Götzinger. Peut-être une page Facebook?
Oui, alors vous retrouvez ma page Facebook qui se nomme Culture...
Culture, francophonie et écologie dans le Morvan ou ailleurs.
Ou ailleurs, voilà. Merci.
Voilà. Je répète, culture, francophonie et écologie dans le Morvan ou ailleurs. Et puis, on mettra toutes ces références, tous ces liens sur le podcast. Alors, la mise en ligne ou la balado-diffusion de notre échange avec Dan Götzinger, que je remercie d'avoir été aujourd'hui devant le micro de Wagon Livre. Je rappelle, Marathon Dan et autres nouvelles. Merci Dan Götzinger.
Merci à vous.
Je souhaite alors un bon congé de fin de semaine. Vous voyez, je n'utilise pas le mot week-end. Bon congé de fin de semaine à toutes nos auditrices et auditeurs. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 4 juillet à 11h, toujours sur Radion. Nous parlerons des nourrices du Morvan avec Noël Renaud. Et ce sera la dernière émission de la saison. Et nous reviendrons le 5 septembre, toujours sur Radion à 11h. Merci Dan Götzinger d'avoir été avec
Merci
nous,
à vous.
D'avoir avec autant d'enthousiasme
Merci
et de conviction
beaucoup.
Évoqué la course. Et puis, on peut s'y mettre modestement, sans chercher à être un champion.
Ah oui, et je vous le conseille d'ailleurs.
Merci Dan Götzinger, au revoir à toutes et à
tous,
et à samedi prochain, toujours à 11h sur Radion pour un nouveau numéro de Wagon Livre.